France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la langue se standardise-t-elle ? Vous le savez, la conversation scientifique s'autorise parfois un écart, un pas de côté, en choisissant d'aborder une question qui n'est pas strictement scientifique. Elle s'offre alors une petite excursion, histoire de prendre l'air et aussi de donner corps à l'esprit d'ouverture cher à France Culture. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui est celui de la langue que nous utilisons pour parler, écrire, communiquer, raconter. Que devient-elle ? Chacun voit bien qu'elle change, mais que lui arrive-t-il au juste ? Transformons cette vaste question en celle-ci plus précise. Le langage courant d'aujourd'hui se sert-il pleinement de la puissance que toute langue possède a priori ? De l'intégralité de son spectre d'évocation possible ? De toute sa théâtralité potentielle ? Il semble plutôt contraint par de nouvelles normes plus ou moins insidieuses et paraît même s'aplatir sur lui-même comme s'il était sous l'influence croissante de ChatGPT. Ne se prive-t-il pas ainsi de certaines de ses capacités d'invention, de sa force d'imagerie, de ses ressources poétiques ? Et nous-mêmes, lorsque nous usons d'éléments de langage si prévisibles et si formatés que notre propre verbe semble avoir été robotisé, ne nous transmutons-nous pas en pseudo-machines parlantes ? Pour discuter de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Bordas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et vous venez de publier un livre très étrange chez Gallimard qui s'intitule « Les Parisiens ». Où vous montrez une forme d'obsession pour la langue. Est-ce que vous êtes capable de dire d'où elle vous vient, cette obsession ?
Oui, l'obsession, elle est manifeste. Mais elle vient sans doute du fait que je suis né sans langue, enfin disons plutôt sans langue fixe. Parfois c'est les aléas de la vie que connaissent bien les immigrés, sauf que moi ça s'est passé en France. J'ai été dans les petites années un peu élevé par ma grand-mère en Corrèze qui parlait patois la moitié du temps. Donc il y avait cette sonorité. Puis mes parents qui cherchaient du travail sont partis sur Paris, mais non pas dans Paris intramuros, mais dans les nouvelles cités qui sortaient comme des champignons autour de Paris et où arrivaient en masse, de façon égale, tous les pauvres du monde et où se mélangeaient toutes les langues. Donc j'avais dans la tête la langue chantante, la langue d'oc. J'avais toutes les langues africaines, noires, maghrébines, vietnamiennes, antillaises qui tournicotaient autour de moi. Et on ne parlait pas la langue des parents. On avait inventé une sorte de langue, un argot à nous, qui puisait au verlan, au jarre ancien. Et puis il y avait la langue de l'école, qui alors, dans la cité, était la langue la plus banale possible. Et cette langue-là ne nous plaisait pas, parce qu'elle était pauvre. On passait notre temps à utiliser des choses très simples et à étudier tout le temps. C'était Prévert, Saint-Exupéry, jusqu'à décéder. Mais nous, la façon dont on parlait, toujours pour rire et pour être extravagant et percuter l'autre en pleine tête avec des expressions énormes, on faisait un travail poétique bien supérieur à la poésie qu'on apprenait à l'école. Donc ça ne nous intéressait pas. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé par hasard à propulser en classe préparatoire Lettres supérieures, Hippocagne et Cagne et tout ça, un truc vraiment de haut vol, où d'un seul coup on me dit « tu vas apprendre la très grande langue ». Et quand j'ai appris, comme j'ai pu, cette très grande langue, les grands auteurs que je connaissais pas, c'était magnifique, mais au fond de moi j'avais envie de d'écrire, mais la question était très simple, quelle langue je vais utiliser ? La langue prénatale, le patois de ma grand-mère, est-ce que je vais écrire comme mes potes voyous de la cité ? Dans une langue dont on trouve des bouts dans le rap, plus ou moins. Est-ce que je vais écrire la langue pour nous morte de l'école, refaire du Prévert que je trouve génial, mais c'était pas du tout notre rythmique, ou imiter les grands auteurs comme font tous les académiciens, refaire le Hussard ou refaire le pseudo Giono, etc. Et à un moment, j'ai été complètement paralysé. Je n'ai même pas pu écrire parce que je ne voulais abandonner aucune de ces langues.
Mais dans ce livre, Les Parisiens, dont on va parler, vous les parlez toutes. Enfin, vous les mélangez d'une certaine façon. Vous travaillez chacune d'elles pour les mettre en relation avec les autres.
Oui, on vit en démocratie, mais il n'y a qu'une seule langue qui règne. C'est la langue médiane, assez simple, des médias, de l'école et de l'administration. Et moi, je trouve ça beau dans un livre de laisser parler, de laisser s'agiter et musiquer tous les types de paroles. Les paroles des très basses classes, des gens exclus des cités et puis même des autres immigrés, et les langues très hautes, de Bossuet, Saint-Simon ou autres, que aujourd'hui tout le monde met au discrédit. Donc j'aime bien quand dans un livre, toutes les classes sociales et tous les groupes ont le droit de chanter.
Est-ce que vous êtes quelqu'un de bavard dans la vie, Philippe Bordas ?
Si je peux sortir une bonne vanne et faire rire, je deviens bavard, sinon j'attends mon heure.
Bon là, il va falloir parler un peu plus vite, même si on a une heure ensemble, il y a une chance que ça sorte avant la fin de l'émission. Revenons sur le titre de votre livre qui m'a intrigué, « Les Parisiens », alors ça s'écrit P-A-2-R-E-H-E-S-I-E-N-S. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, on comprend que c'est les Parisiens, mais pas tout à fait ça, parce que pour Rabelais, le grand auteur français qui, lui, bien avant tout le monde, a aussi décidé de mélanger toutes les langues, les langues extrêmement hautes et basses, ça a été le premier, quasiment le dernier à l'avoir fait. Pour Rabelais, les vrais Parisiens, ce sont ceux qui ont le don de parésie. Et la parésie, dans la rhétorique ancienne, c'est l'art de tout dire, de tout balancer à la face des puissants. Donc, on a tout de suite l'idée des titis parisiens, des argotistes du pavé, qui n'ont peur de rien et qui crachent leur venin à tout bout de champ. Et les Parisiens, c'est un titre qui parle exactement de ça, de la langue supérieure, rythmique et surpuissante de Paris.
Alors, vous avez rencontré des Parisiens, vous pensiez que l'espèce avait disparu, mais une sorte de hasard que vous racontez très bien dans le livre a fait que vous avez rencontré, enfin vous avez découvert un endroit où ils se réunissaient. Cet endroit est aujourd'hui fermé, une salle de sport, de musculation, et qui servait de ce que vous appelez une marmite idiomatique. Alors il faut expliquer d'abord la rencontre, et puis ce qu'on faisait dans ce club très particulier.
La rencontre, c'est comme une sorte de petit polar parisien qui se passerait sur le boulevard du Montparnasse par une fin de journée très sombre et très très neigeuse. Et je suis extrêmement couvert, je remonte le boulevard du Montparnasse vers Vavin, la rotonde, les grands, le Select, les chouettes bars chics. Et devant moi, il y a un personnage extrêmement musclé, qui n'est pas du tout couvert, qui a une chemisette à manches courtes, qui boite de façon exagérée, qui tient une grosse sacoche en cuir bouilli à la main, comme les bouches Doctor dans Lucky Luke, et qui déglingue les homards sur les venteurs de l'écaillé.
Apostrophe. L'écaillé, hein. C'est ce restaurant de poissons.
Oui, les restaurants de poissons.
À l'angle entre le boulevard du Montparnasse et le boulevard Raspail.
Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce gars ? Je le suis un petit peu, et il rentre dans une petite rue obscure qui s'appelle la rue Huygens, qui est collée entre le boulevard du Montparnasse et le boulevard Raspail. Et là, il s'enfourne dans un endroit totalement aveugle. Je rentre dedans, c'est là un grand gymnase de type Eiffel, avec des belles poutrelles, et il y a plein de jeunes filles qui font de la gymnastique acrobatique. Donc je le vois faire le tour du parquet et rentrer dans une petite pièce à hublot dans le fond. Je me dis, c'est bizarre, c'est peut-être un technicien, il vient faire son boulot, il n'a pas peur du froid. Et je vais pour partir, et il y a un deuxième gars qui arrive, d'un même type exogène hallucinant que l'autre. Alors lui, il est déguisé en ouvrier des années René Coty. Il a une casquette en sky à rabat comme Elmer dans Walt Disney. Et il a une petite besace tissu écossais, comme prenaient les ouvriers pour aller au boulot avec la gamelle et les chaussures de sécurité. Mais du sac dépasse un bec de chalumeau. Et il a des petites bottines avec une fermeture éclair centrale que plus personne ne veut porter sous peine de dérision, quoi. Et alors lui, je le vois aussi faire le tour et aller dans le fond. Bon, là, je me dis, c'est peut-être des gars qui trafiquent des trucs derrière, ils vont souder, c'est un peu louche, mais bon, ça me concerne pas. Et au moment où je pars, il y a un troisième lascar qui arrive, qui, lui, ressemble à un petit joueur de poker de Babelwed, un type, on voit bien que c'est un pied noir. Il est tout petit, il est en costard noir, avec des chaussures pointues vernies, il a une énorme coupe de cheveux teint en noir à la Roy Orbison, et des grosses lunettes noires qu'on met quand on avait fait l'opération de la cataracte. Et à la main, il a un petit journal, une sorte de journal gratuit. Et je le vois aussi faire le tour et rentrer dans la salle. Et là, je me dis, bon, maintenant, c'est sûr, c'est du poker clando, il y a de l'argent derrière. Donc, je les suis. Et là, je colle la tête au hublot, on n'entend rien parce que tout est triplé, blindé, et à l'intérieur, c'est une scène d'apocalypse drôle, mais c'est comme Dante qui arrive à la porte des enfers. Je vois que une cinquantaine de mecs assez âgés, en train de faire de la musculation torse nu ou avec des t-shirts, des habits de sport d'une autre époque qu'on voudrait même plus porter, tellement c'est la honte, et qui tous, avec des haltères façon Brigade du Tigre en fonte, s'apostrophent, se hurlent dessus, comme s'il y avait une discordance totale entre les individus, et moi je n'entends rien, et je trouve ça un peu effrayant, et je repars.
Mais alors quelle est la clé ? Qui c'était finalement ?
Et finalement,
comme les rois de Paris, vous les appelez les rois de Paris.
Et finalement, bah, peu à peu, moi j'avais mal au dos, j'apprends que c'est une salle de musculation qui n'a pas de nom, qui n'a pas de carte sociale, rien du tout. J'y vais quand même, ça coûte rien, il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a rien du tout. Mais moi, c'est près de chez moi, je vais faire la musculation. Sauf que quand je rentre là-dedans, bon moi je viens des cités, mais je suis déguisé en petit bobo avec mes petits habits tout propres. Et je me retrouve là, comme si je rentrais dans une sorte de livre d'Alphonse Boudard avec des mecs qui déjà me jaugent au physique. Donc je suis maigre, je suis un cycliste. Eux, c'est tous des colosses. Et ils m'acceptent. Et je sens bien que mon corps, ma façon d'être, ne passe pas. Jusqu'au moment où, comme je maîtrise la langue du vieux Paris, j'ai une partie de ma famille qui est sont un peu des lascars du 13e. Comme j'ai le langage, je suis accepté.
Bien que vous ayez un physique de feuille de papier, il vous surnomme Skeletor, au motif que vous êtes infertile en dorsaux et stérile d'épaule.
Bah oui, il y a même un gars qui m'avait trouvé l'épitaphe parfaite, l'homme qui passe derrière les affiches sans les décoller. Là, ça vous dit l'épaisseur des omoplates. Donc je m'étais entraîné avec eux, et puis je vois bien que dans le groupe, il n'y a pas que des... Alors les gars qui étaient là, c'était... que des gens qui avaient été peu à peu des vrais Parisiens, qui étaient nés dans Paris intramuros, mais qui peu à peu, depuis 40-50 ans, avaient été exclus par la hausse des loyers et vivaient en petite périphérie vers Châtillon, Montrouge, Gentilly, et revenaient à la nuit tombée pour se retrouver entre eux, parler leur langue, dont je vais parler. C'était un peu comme dans les films de John Carpenter, où on voit les zombies qui sortent des égouts. Et alors là, il y avait des anciens gros voyous du 13e qui avaient fait, non pas le bagne, mais le dernier bagne, c'était les bataillons d'Afrique en 53-54 au Maroc, je pensais même pas que ça existait, les mecs tatoués de partout. Il y avait les plus grands cascadeurs du cinéma français, des génies de la cascade qui avaient fait tous les films de Belmondo, de Delon et de Kirk Douglas et même Steve McQueen. Eux, c'était un peu l'élite physique. Et il y avait aussi un très grand bourgeois du boulevard du Montparnasse qui, lui, se mêlait à cette troupe sans en parler le langage, mais qui était extrêmement costaud et qui, lui, possédait quasiment un immeuble à côté de la closerie des Lilas. Donc, il y avait une population hétérogène. Donc, moi, déjà, j'arrivais à naviguer parce que je parlais la langue de ces anciens prolos que je connais par cœur, tout le vieil argot.
Vous êtes un traverseur de classe, Philippe.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, en fait, le langage est un truc drôle. Moi, je ne me présente pas en imposant mon langage. Je m'amuse toujours de façon caméléone à parler le langage des autres parce que c'est un jeu. Et puis, il y avait ce grand bourgeois qui parlait, lui, était le plus grand spécialiste mondial de l'éthiopien ancien. Il doit y avoir deux locuteurs dans le monde. Hein. Donc, c'était une bizarrerie totale de langue. Et lui, il comprenait pas tout à fait les mots de l'argot. En revanche, il avait toujours plein de citations latines, etc. Et je conversais avec les deux. Et alors là, cette allégorie du mélange des langues se réalise, c'est qu'une fois que tous ces vieux prolos rentraient chez eux, c'était comme le reflux de la marée vers 16h30, 18h30, 19h, arrivait une deuxième faune invraisemblable que je connaissais très très bien, celle-là, c'était que des petits livreurs blacks et rebeux de Paris qui, après le boulot, avait pas envie de s'emmerder à retourner dans les banlieues. Il voulait tout de suite s'entraîner dans Paname, comme il disait, sans payer la cotise. Et alors eux, ils vivaient entre eux et ils parlaient la langue du quartier, la langue des cités. Donc, et ils ne voulaient pas que les vieux prolos viennent le soir, l'enclave passer de classe sociale à autre, de langage à autre.
Sans se mélanger. Alors, quelle différence faites-vous, Philippe Bordas, entre parler français et parler le français? Est-ce qu'il y a une différence à vos yeux, enfin à vos oreilles, ou pas?
Ah oui, bien sûr, parce que là, actuellement, tout le monde parle français en France. Sauf que c'est un Français amputé de sa base et de son sommet. C'est un Français qui n'emploie que les tournures standards qu'on entend à la télévision, qu'on lit dans les journaux et qui sont dans les formulaires d'administration, que même l'école impose maintenant parce que l'école ne veut plus. Utiliser l'entièreté du spectre de la langue française, qui a une tessiture extrêmement large, qui part de la langue du petit peuple, que ce soit les paysans, les anciens ouvriers ou les mecs des cités, qui ont tous un langage. Ce langage est exclu. Et l'ancienne grande littérature, la grande langue française, que ce soit de Proust, La Bruyère, Saint-Simon, qui est totalement discrédité par les politiques et réfuté par l'école qui ne veut même plus l'enseigner. Donc on ne parle que le petit bout de langue française du milieu et on dit « je parle français ». Mais moi je dis « certaines personnes parlent le français », c'est-à-dire ils parlent l'entièreté de la langue. Et pour moi, je ne comprends pas, quand vous avez une Ferrari 12 cylindres, vous ne roulez pas sur 2 cylindres. Vous avez grand plaisir à entendre chanter les 12 cylindres.
Il y a quand même les limitations de vitesse.
Voilà, mais bon, moi j'essaye d'écrire des livres où c'est pas limité à 90, c'est surtout ça.
Qui est Awa, cette femme qui apparaît dans votre roman comme...
Alors, il y a une jeune femme qui vient s'entraîner dans la salle des voyous, entre guillemets, du soir, et qui est une métisse africaine, tatouée de partout, une boxeuse des cités, qui vient là, qui ne parle à personne parce qu'elle est tellement jolie, attirante, qu'elle ne veut pas se laisser frôler par tous les beaux blagues bien musclés, eux-mêmes tatoués, qui essayent de s'approcher d'elle. Et j'entends parler d'elle par un des vieux prolos de la salle qui vit près de chez moi, rue Daguerre, qui est un gars qui est né là et qui refuse le fait que les blacks et les rebeux interdisent l'accès le soir à la salle. Alors, le gars, il est totalement d'un autre temps. C'est un ancien blouson noir du quartier Pernetti. Il dit « Je suis né là, je m'entraîne là, je meurs là ». Ça a été un ancien gros voyou. Donc, le soir, il enfile un scot de voyou du Parc des Princes, à l'intérieur duquel il y a un 357 Magnum chargé et un nunchaku à cloutage diamant dans le slip côté droit. Il ferme son blouson et lui, il décide d'aller le soir en disant, pour être poli, j'emmerde les mecs. Donc il arrive là, tout de suite c'est le barrage des colosses, parce que les mecs étaient vraiment des gros musculateurs, et lui il ouvre son scot, il monte son enfouraillement, et en plus il tape une barre à 100 kilos pour les calmer. Et puis un jour, dans sa langue, alors lui c'est un vrai de vrai de la rue Daguerre.
Il est toujours vivant.
Lui est toujours vivant. Il vient à mes signatures de livres, je peux vous dire que les gens s'écartent. Mais lui, il vient... Et il me dit, ouais, j'ai vu une petite, franchement, c'est pas... Alors, il commence à me chauffer la tête avec ça. Donc, le narrateur décide d'aller voir le soir ce qui se passe. Et le truc drôle, c'est que d'un seul coup, il est aussi refusé. Le narrateur tout maigre a été refusé par les vieux prolos. Il est refusé par les mecs des cités, sauf que les mecs, d'un seul coup, s'aperçoivent qu'il vient du même monde et qu'il parle la même langue et qu'il sort les mêmes vannes. Donc, d'un seul coup, ce narrateur personnage devient une sorte d'atome communicant qui passe de cellule à autre. Et qui devient, comme les gens ne se comprennent pas entre eux, il y a un moment, il devient traducteur d'ambassade entre les langues.
En physique, on appelle ça un boson intermédiaire.
Ah ben voilà, c'est ça.
Transmet les messages.
Bon, eux, ils m'auraient plutôt traité de bozo, mais...
Bon, Awa, donc, cette femme, Artaud est son dieu.
Alors, cette femme, elle, c'est un cas génétique extraordinaire. C'est une fille des cités qui n'a pas fait d'études, mais qui, c'est très rare pour une Africaine, devient une gothique, c'est-à-dire qu'elle s'enferme dans la mode gothique, la musique gothique, les Cures, et tous les gens du gothisme, entre guillemets, ont les mêmes grandes lectures mystiques, le romantisme noir de Baudelaire, Huysmans, et les mêmes films. Et son dieu à elle, c'est Antonin Artaud. Et le narrateur, qui a un coup de foudre, veut la séduire en lui faisant visiter... parce que le centre du livre, c'est le centre tellurique, c'est le cimetière du Montparnasse, lui faire visiter une à une pour avoir ses faveurs sexuelles, les tombes de Baudelaire, puis de Huysmans, etc. Et comme à la fin, c'est comme dans les Mille et une nuits, elle est très très dure, elle ne se contente pas d'une relation normale, elle ne s'offre que si elle a eu une révélation mystique sur la tombe de ses héros littéraires. Et le gars ne trouve plus rien, donc c'est la fin de la liaison, et il gamberge, il fait des recherches infernales. Et là, c'est la découverte, ça c'est de la pure histoire littéraire assez drôle, c'est que le dernier moment où son dieu Antonin Artaud a été lucide, vivant et créatif, c'était rue Daguerre, une petite rue piétonne juste à côté.
Il y a une phrase de, d'Antonin Artaud dans Le Théâtre de la Cruauté qui renvoie à ce que vous dites. Il écrit « Le corps humain est une pile électrique chez qui on a châtré et refoulé les décharges dont on a orienté la vie sexuelle, les capacités et les accents, alors qu'il est fait justement pour absorber par ses déplacements photovoltaïques toutes les possibilités errantes de l'infini du vide. »
C'est extraordinaire. Mais voilà, c'est ça, c'est les capacités de mouvement de particules extrêmes de la langue qui peuvent se retrouver. Et cette intensité-là, elle disparaît suite à une castration. Et je fais un lien dans le livre entre la castration immobilière, l'expulsion des pauvres de la ville et la disparition de la langue de Paris, qui est une petite et grande langue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à une époque, dans les immeubles, il y avait l'étage noble, l'étage bourgeois, l'étage des ouvriers, l'étage des étudiants, des chambres de bonne. Toutes les classes sociales étaient dans le même lieu. Donc, il y avait une transfusion linguistique entre les étages. Et
il y avait des sauts quantiques entre les étages.
Voilà, c'est ça. Et les nobles parlaient la langue du peuple. C'est quelque chose qui est très, très sensible quand on lit Saint-Simon, où on voit que le roi et le paysan parlent encore une même langue. Et alors la chose qui est belle, c'est que pour séduire cette fille, le gars découvre que Antonin Artaud a sillonné ce quartier dans tous les sens, et ça a été le dernier moment de sa lucidité. On lui a offert une canne rue Daguerre, qui était une canne noueuse, qu'il a entièrement fait clouter, et il a décidé que c'était la canne de Saint-Patrick avec lequel on avait chassé le diable. Et donc, il traversait tout le quartier où je vis, en faisant traîner la canne cloutée sur le sol, et derrière lui, il y avait une gerbe d'étincelles entre la rue Daguerre, la traversée du cimetière du Montparnasse, tout le boulevard Raspail. Il arrivait à l'endroit de la salle de muscu, juste à côté, il rentrait à la rotonde, il déchiquetait tout le lino avec les clous, et rentrait chez lui. Et c'est le dernier moment où on l'a vu à peu près normal, parce qu'à un moment, il décide de quitter ce quartier-là qui est le centre du livre. Il part à Dublin, dans un élan de folie généreuse, pour rendre la canne de Saint-Patrick aux Irlandais. Évidemment, les Irlandais l'internent tout de suite. Et il est renvoyé en bateau, plombé, camisolé en France. Et il ne reverra plus jamais la liberté.
Il y a une question que je vous pose, en espérant que la réponse ne fâchera personne. D'après vous, Philippe Bordas, où se trouve le centre de Paris?
Alors, le centre de Paris...
Soyez diplomate.
C'est le kilomètre zéro, le point de Notre-Dame. C'est le lieu central du catholicisme français et de la capitale. Sauf que c'est le lieu monarchique et religieux. Mais le petit peuple de Paris a toujours considéré que les vrais centres, ce n'était pas cela. Donc il y a eu la Cour des Miracles, qui s'est décalée vers la rue d'Aboukir, je ne sais plus exactement. Et puis ensuite, il y a eu, après la Révolution, le Palais Royal, qui a été le vrai centre de Paris. Et puis après, c'est les poètes et les écrivains qui ont décidé de cette géographie, de ce vortex, de cet ombilique de la ville. Les surréalistes ont décidé que c'était vers le quartier de l'Opéra. Les situationnistes, avec Guy Debord, ont décidé que c'était vers Maubert. Et moi, j'ai fait suffisamment de découvertes mystiques autour de ce cimetière du Montparnasse, ou a tournicoté Artaud, ou a tournicoté son sosie absolu qui est Jean-Pierre Léo, que j'ai croisé plusieurs fois dans le livre et j'en parle, qui fait le même chemin de ronde, plus d'autres personnages du livre.
Mais il vous a jamais salué?
Non, il me détestait, je sais pas pourquoi, moi je l'aimais bien, mais il a toujours eu des yeux de bulldog fou contre moi, j'ai même cru qu'il allait me manger une fois, non, il m'a toujours fait très peur. Et donc je considère que le dernier centre tellurique, c'est ce coin de Paris, où maintenant tout est mort, mais où a eu encore lieu ce miracle de la dernière langue parisienne vibrante.
Alors votre écriture, qui est très spéciale, enfin, moi je la qualifierais de musculaire, enfin, il y a toujours un corps qui est présent, il y a toujours du physique qui est là. Vous parlez même d'haltérophilie poétique, donc la langue et le corps, ça va ensemble, il y a un langage du corps.
Ah ben oui, de toute façon, tous mes livres depuis le départ sont liés à une sorte de nervosisme, de transcription directe de la rythmique corporelle. De toute façon, les grands écrivains, ce sont des rythmiciens et c'est des organicistes, entre guillemets. Un écrivain qui n'a pas de corps n'a pas d'écriture, donc c'est pas du tout pour lier de façon servile la poésie à une gymnique. C'est plutôt pour dire que l'écriture elle-même, elle est vivante quand elle est rythmique, quand elle a une nervosité, quand elle a un souffle, Et là, on retrouve quand même des notions qui sont assez religieuses, qui ont un rapport au texte sacré. La langue médiane, dont on parlait tout à l'heure, ne porte pas la vibration, elle ne porte pas la rythmicité. La langue médiane, c'est une langue qui a entièrement évacué l'esprit et le corps. C'est une langue usuelle qui sert à la société, à l'idéologie.
Vous serez d'accord avec moi, Philippe Bordas, pour dire que votre livre, il faut le lire à voix haute.
Ah oui, il faut le lire
donc
à voix haute.
Donc c'est assez lent. Ah oui, il y a des phrases, par exemple, à propos de ces messieurs qui s'entraînent dans ce club de musculation. Les gars se tisonnaient à touches brèves de substantifs venins et d'épithètes poison. Ils ne s'aspergeaient pas de phrases au jasmin, mais de forts postillons d'outrage et de raillerie. Ils avaient le fouet sur la langue et l'estoc pour fin.
Ouais. L'estoc, hein.
L'estoc.
E-S-T-O-C, oui, l'estoc de l'épée. Oui, c'est ça. Et moi j'ai fait des études de philo, etc., mais je n'ai aucun dosage spirituel ou philosophique dans mes livres. Je m'en tiens à l'impact visuel et physique, parce que la langue est tellement morte, il y a aussi une sorte de contre-offensive pour la rendre plus vivante. Et je pense que la façon dont je travaille est parfois exagérée dans la drôlerie ou dans la densité ou dans la rythmicité, parce que c'est une manière de réélectrifier, de donner un coup de court-circuit dans la langue morte d'aujourd'hui quand même.
Vous dites dans une interview, Philippe Bordas, « Je suis africain ». Ça veut dire quoi? Vous avez vécu en Afrique longtemps?
Ah oui, j'ai vécu 30 ans en Afrique et bah oui, je suis totalement imprégné de du langage du corps et du lien à la rythmique. J'ai suivi les lutteurs au Sénégal et les lutteurs ont croyé qu'ils exécutaient les mouvements conseillés par le coach. Non, ils exécutaient les mouvements dictés par le tambour dans la langue du tambour. Et donc là, une fois qu'on comprend ça, et puis oui, moi je n'ai pu devenir écrivain que par un très long passage par l'Afrique pour récupérer une part sanguine, une part rythmique qui faisait défaut dans la langue et les lectures que j'avais. Parce que quand j'ai voulu devenir écrivain dans les années 80, c'était le moment déjà de l'effondrement politique avec le virage socialiste Fabius, mais c'est très important ce que je vais dire, c'est presque drôle, mais c'est le moment où d'un seul coup, les journalistes ont pris le pouvoir sur les écrivains. C'est le moment où Pierre Michon fait un chef-d'œuvre en 84, Les Vies Minuscules, et où il est traité comme un technicien de surface parce que c'est l'assomption de Philippe Labreau. Alors c'est des trucs qui étaient invraisemblables à une époque. Et donc moi je suis arrivé à ce moment où il y avait une sous-littérature journalistique et tous les mecs qui étaient invités chez Pivot, de temps en temps il y a une Nabokov, mon Dieu, mais sinon c'était que des journalistes. Et aujourd'hui, je ne dis pas, je m'en fiche qu'il n'y ait que des journalistes s'ils écrivent une belle langue, mais c'est la langue des journalistes qui s'est imposée sur celle des écrivains. Et ça, c'est une révolution qui est considérable, parce que la littérature n'est pas un didactisme, la littérature n'est pas une annexe de France Info. Et aujourd'hui, tout le monde récite...
Vous avez dit France Info, vous avez failli dire France Culture.
Non, non, ça va.
Qui est Carlo Emilio Gadda, qui est un écrivain, mais...
Alors voilà,
pour qui vous avez une admiration qui transpire en beaucoup d'endroits.
Alors voilà, justement, dans ces années 80, je ne trouvais aucun écrivain français qui puisse satisfaire mon désir de mêler dans un même livre la langue d'oc de ma grand-mère, la langue des cités. Je n'avais pas d'exemplarité, la langue standard et la grande langue française. Sauf que je découvre un jour par hasard qu'il y a un Italien qui est l'équivalent de Rabelais, c'est le Rabelais italien, il faut le dire, c'est Carlo Emilio Gadda. Le plus grand écrivain du XXe siècle, c'est pas Moravia ni rien, c'est lui. D'ailleurs, Pasolini a toujours dit que le plus grand des plus grands, c'était Gadda. Et Gadda mélange tout dans ses livres. La très haute littérature, Ovide, Homère, Dante, Leopardi. Et il récupère tout le génie des dialectes italiens qui sont d'une variété aussi extrême que les langues des cités quand elles sont teintées de dialectes algériens, berbères, ou qu'elles sont teintées de mots du Congo ou du Sahel, vous voyez. Et ça a été un exemple énorme. Et si j'avais trouvé un écrivain français qui, à cette époque, m'avait donné cet espoir de parler le français, j'aurais fait comme lui. Mais Gadda, lui, ne parlait pas italien. Il parlait l'italien.
Vous avez demandé à ChatGPT de proposer un portrait d'Emmanuel Macron en essayant d'imiter le style de Saint-Simon.
Voilà.
Alors pourquoi Saint-Simon d'ailleurs? La raison que vous avez dit tout à l'heure.
Non, parce que Saint-Simon a passé son temps à condamner les impostures politiques et Oui, les impostures. Donc, demander à Saint-Simon d'Outre-Tombe de faire un portrait de Macron par ChatGPT. Et j'ai été étonné. La première version de ChatGPT était assez intéressante. Et alors, la machine vous tutoie. Hein. Elle me dit, en gros, ça te ferait plaisir d'avoir un truc un peu mieux. Je dis, oui, vas-y. Et la machine, après, en deuxième mouture, m'a sorti un texte qui est quand même de gros calibre. Là, j'étais impressionné par la capacité de synthèse totale de la machine. Sauf que toutes les imperfections, les légères irrégularités, les légères distorsions, les euphonies, toutes les bizarreries qui font la sève rythmique du langage étaient absentes. Et maintenant, j'utilise ChatGPT autrement, puisque ChatGPT, c'est la voix standard de la langue standard. Malgré sa grande intelligence, il parle la langue morte du milieu. Donc, comme j'ai du mal à me positionner et que les gens me font des critiques très drôles, souvent, je crée des tribunaux fictifs pour demander à être jugé pour mon trop grand amour de la langue française. Et j'adore ça, je me flagelle avec ChatGPT. Et il me dit, oui, vous n'écrivez effectivement, cher ami, vous n'écrivez pas la bonne langue, etc. Peut-être que même vos livres que vous dites français, écrit en le français, mériteraient d'être traduits dans le français de la masse et des gens normaux. Donc la machine vous donne des conseils de standardisation extraordinaires.
Mais ChatGPT pourrait proposer un résumé de votre livre en 20 pages, 10 pages, 50 pages.
Ouais,
vous avez essayé ça?
Non, non, mais une fois, bon, c'est un peu par mégalo drôlatique, je lui ai dit, seriez-vous capable d'écrire, parce que je suis fan de cyclisme, un texte sur Fausto Coppi, le grand cycliste italien, dans le style extraordinaire, entre guillemets, de Philippe Bordas. Et je dis ça en blaguant. Et la machine m'a sorti un truc, j'ai dit, mais le gars, il a tout lu. Et il avait mieux fait la synthèse de tout ce que j'ai écrit dans ma vie que n'importe quel journaliste. Et alors là, j'ai été étonné. Mais bon, c'était pas exactement mon style.
Alors, il y a quelque temps, on a reçu à ce micro Valère Novarina, que vous connaissez, écrivain, homme de théâtre, dont l'anagramme devrait vous plaire, puisque vous êtes cycliste, vous avez failli être professionnel. Quel est l'anagramme de Valère Novarina? Eh bien, c'est vrai anard en vélo.
Ouais, ça devrait vous plaire.
Et lui, il écrit ceci. « J'ai toujours considéré, dit-il, la linguistique comme une branche de la physique des fluides. » Ça vous parle?
Ouais, oui, bah, parce que l'autre chose qui est capitale, je ne l'ai pas dit, mais là je fais que reprendre les vieux énoncés de Céline, c'est qu'on vit une époque où le mauvais goût est lié au pondérable. C'est-à-dire que le mauvais goût simple de la langue standard est lié au pondérable. En fait, c'est une langue qui a l'air morte, mais qui n'aime que les choses vraies, vérifiées, lourdes, pondérables. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la légèreté, la fluidité, la gazéification des sensations. Donc c'est toute une érotique du verbe, qui passe par, j'en ai parlé tout à l'heure, la rythmique, mais aussi la légèreté. Et la lourdeur, le sérieux, font partie des armes de la standardisation. Je vais dire pourquoi. Parce que l'humour, un livre, un auteur est drôle quand il utilise un langage qui va vous faire rire. Mais ce langage-là, pour devenir drôle, il doit, c'est le secret de l'humour, être lié à des infractions, des bizarreries, des lexiques incongrus. Tout ce qui fait l'humour est une déviation et un écart insupportable pour la langue standard qu'on nous impose aujourd'hui. Et aujourd'hui, les grands succès des livres, il n'y a plus un seul écrivain drôle. Le dernier très grand, c'était San Antonio, qui est un génie mais qui est sous-évalué. Il n'y a plus aucun écrivain drôle aujourd'hui. Il y a un sérieux total qui est effectivement porté par toute la littérature de la plainte et de la victimisation, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a plutôt sa part dans le récit psychanalytique ou la confession policière. Mais le sérieux, la tristesse, le ressentiment, la lourdeur sont les armes de la langue standard rétrécie.
Vous, vous aimez la légèreté dans l'écriture, vous venez de l'expliquer, mais aussi pour vos vélos.
Ah ouais,
vous fabriquez vous-même vos vélos pour qu'ils soient les plus légers possibles. Là, je cite le narrateur de votre livre, de votre roman. « Infléchi par le panorama, j'ai fabriqué pièce à pièce une machine zéphyrienne en alliage lunaire. » Un moderne cheval ailé, prêt à lacérer les brouillards du Vexin, amassé sous Montmartre dès l'avant-matin. D'où vient cette obsession de la légèreté du vélo?
Bah, c'est les deux sports que j'aimais pratiquer, c'est le saut en hauteur, parce que j'étais bon à ça. Il y avait les systèmes de détection façon RDA à la cité, donc on vous voyait un espèce de haricot comme moi, on était mis au basket, au saut en hauteur. Mais mon truc, c'était le cyclisme, et spécialement, ma folie, c'était le démarrage en côte. l'ascension, l'ascension semi-divine vers la cime. Et quand on n'a pas fait, quand on n'a pas eu d'éducation religieuse, c'est quand même une parodie de monter au ciel, quoi.
Vous dites que le déclin de la langue va de pair avec le déclin du cyclisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que le cyclisme est en déclin, d'abord ? Vous dites qu'on a perdu le sens de la monumentalité. Pourtant, aujourd'hui, les professionnels, je parle des cyclistes, font des choses incroyables, non ?
Oui, alors bon, là, c'est très compliqué, mais c'est la question de l'héroïsme, c'est la question de la solitude, de la révolte qui... Si aujourd'hui, on n'a plus de possibilité de révolte politique, puisque les partis se sont effondrés, donc moi, je considère que mon travail de sape contre la langue commune est un travail vraiment politique, même s'il ne recoupe pas les préoccupations d'un parti. C'est quelque chose de plus profond. Et par ailleurs, oui, le cyclisme, pour moi, représentait un aspect rythmique et organique de découverte de la France. Il y a l'écriture, la langue française, mais pour moi, le Tour de France a été aussi une expression extraordinaire de l'âme du pays, parce qu'à une époque où les paysans et les ouvriers étaient encristés chacun dans leurs champs ou leurs ateliers, les premières photos arrivaient dans les magazines, il n'y avait pas la télé, mais des paysages avec les coureurs qui passaient les Alpes, etc. C'était une découverte de la France et la découverte des frontières. Donc le cyclisme, pour moi, a été une manière de découvrir la France et en plus de découvrir... parce que j'ai été chroniqueur cycliste à l'Équipe, vous ne pouvez pas écrire en langue morte un démarrage en côte. Vous ne pouvez pas écrire... Ben maintenant, il y en a qui le font à l'Équipe, ils ont le droit. Vous ne pouvez pas écrire en langue faible quelqu'un de fort. Ça, c'est très important. Vous n'allez pas faire un panégyrique de Mohamed Ali dans la langue de Pujadas. C'est pas possible, vous voyez.
Bon, on va se faire des ennemis, là. Philippe Bordage, j'ai cru comprendre que vous avez failli être cycliste professionnel.
Oh non, c'est plus un fantasme qu'une réalité sportive. J'aurais aimé, mais j'étais bon, mais j'étais pas au niveau suffisant.
Qu'est-ce qui manquait ?
La capacité à vivre en groupe, toujours dans l'Équipe, dormir dans le même gymnase à quatre par chambre. Et puis les dieux m'ont doté de grandes jambes fines et de plein de trucs bien pour le vélo. Mes jambes sont beaucoup trop longues par rapport à ma taille, donc c'est bien. Mais vous savez, les grands cyclistes, ils ont des reins exceptionnels, ils ont un cœur exceptionnel. Et tout un tas de petites choses organiques qui sont des anormalités, en fait.
Il y a un cycliste dont vous allez me révéler le nom, dont vous avez dit, il voulait rénover le peloton comme on rénove la langue.
C'est Jacques Anquetil.
Que vous avez rencontré, je crois, un an avant sa mort.
Ouais, Jacques Anquetil.
Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Comment est-ce que vous comprenez cette phrase ?
Alors Jacques Anquetil, par exemple, il était en lutte contre le style, le mauvais style, le style faible et commun du cyclisme, qui était de pédaler comme un facteur, d'avoir des habits pas soignés, d'être mal positionné sur la bicyclette, d'avoir des bicyclettes avec des roues de mauvaise qualité. Jacques Anquetil faisait monter des boyaux de soie sur sa bicyclette. Il était absolument positionné pour rentrer dans le vent. Il avait une distinction extraordinaire, il choisissait ses mots. Il s'est, une certaine façon, anobli. Son papa plantait des fraises. Lui, s'est racheté le château de Maupassant, se promenait sur les berges de Seine dans un hors-bord en bois, roulait dans une Mustang. C'est pas du tout pour montrer sa fortune gagnée. C'était plutôt son élégance. Et sur le vélo, il voulait esquiver la démonstration de la fatigue. Il pédalait de la pointe. Et avec une rythmique extraordinaire et onctueuse, et j'ai dit cette chose, je ne sais plus la phrase, mais il pédalait en alexandrin. C'est-à-dire, il avait un style onctueux et il a refusé le style commun. Donc pour moi, c'est un exemple qu'un même un sportif développe un phrasé, développe une langue qui est une contestation de la langue commune.
Il divisait le vide pour mieux tuer le néant. Ça, c'est vous qui l'avez écrit.
Oui, parce que c'était un fanatique de la gestion temporelle, du calcul des secondes, du chronomètre. Si quelqu'un arrivait chez lui, deux secondes avant, il n'ouvrait pas la porte. Deux secondes après, il ne les laissait même pas rentrer. Donc, et puis sur le vélo, il savait exactement comment gérer ça. C'est quelqu'un qui était tellement obsédé par la mort qu'il a fait une récession de son angoisse vers la montre. Donc le moment terminal... Il l'a vécu à toutes les secondes en essayant de maîtriser la seconde prochaine comme si c'était la dernière, vous voyez.
Il avait 10 ans d'avance sur son destin et 10 minutes de marche sur ses adversaires. Ça aussi, ouais. C'est de vous, dans le livre Les forcenés.
Ouais, ouais,
que vous consacrez aux grands champions du cyclisme.
Mais les grands champions du cyclisme et les grands champions d'écriture ont en commun beaucoup plus de points communs que les autres. Je ne vois pas du tout l'exemple d'un footballeur qui va pouvoir inspirer un écrivain. C'est absolument impossible. Un boxeur, oui, évidemment. Un grand alpiniste. En fait,
Et pourquoi ?
Parce que c'est les hommes de l'exploit solitaire. L'artiste s'éloigne du groupe. Il est obligé d'inventer une forme qui n'est pas celle du groupe. Donc les sports qui sont de dureté extrême et qui nécessitent un courage surhumain comme la boxe, l'alpinisme ou le cyclisme, vous mettent en position non pas d'artiste, mais de personnes en but au groupe. Parce que quand vous avez décidé de faire quelque chose, il y a souvent l'arrogance du défi chez ces gens-là. Tout le monde attend que vous échouiez.
Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes nostalgique, que vous regrettez un temps aujourd'hui révolu ?
Par exemple, vous allez dire que je suis nostalgique d'une certaine langue française. Ce n'est pas de la nostalgie, puisque cette langue-là, elle existe. Elle est présente dans tous les dictionnaires et dans toute la bibliothèque. Donc je ne suis pas nostalgique, je suis exigeant pour que soit restitué le stock poétique et soit remis à la disposition de toute la population française. Je considère qu'il y a un stock d'armes poétiques cachées qui nous est masqué par l'école au nom de la démocratie, de la facilité. On nous enlève toutes sortes de beautés, soi-disant parce qu'on ne comprend rien, qu'on n'arrive plus à écrire. Je vais vous dire un truc, à la cité, on se faisait massacrer tout le temps parce qu'on n'était pas assez bon en français, ceci, cela. Mais notre folie de se battre à coups de mots, d'inventer des expressions, parce que c'est celui qui invente qui est respecté. À la cité, soit vous êtes le plus fort physiquement, soit vous êtes le plus fort verbalement. Bon, moi, j'avais pas le choix, physiquement, c'était mort. Et quand je suis arrivé en classe prépa, on m'a dit, voilà le livre le plus incompréhensible de la Terre. James Joyce, Finnegan's Wake. Mélange de 192 langues dans tous les sens. J'ai lu ça. Bon, je comprenais pas tout, mais j'avais l'impression d'être au milieu d'un groupe en bas de la cage d'escalier avec le délirium de toutes les langues mélangées. Donc en fait, la sous-langue, dans sa folie rythmique, m'avait permis d'être en sympathie avec la surlangue. Et ça, c'est une leçon incroyable.
Mais est-ce que vous avez la même impression lorsque vous lisez Céline, par exemple ?
Ah, Céline, c'est différent. Céline, justement, lui, je lui reproche... Il pense avoir suivi la leçon de Rabelais dans le côté exagéré, populo, outrancier, ce qui n'est pas le cas, parce que Rabelais, il avait aussi la partie qu'a eu Proust du grand raffinement, de l'insertion de la philosophie dans son œuvre. Céline, il avait un côté un peu racisant contre la haute culture, et il n'a pas utilisé le français à plein, il a utilisé de façon extraordinaire une reconstruction du français du bas.
Avez-vous faire subir un test, Philippe Bordas ? Vous êtes cycliste, est-ce que vous parlez vélo ?
Ça arrive.
Donc je vais vous donner des expressions de cycliste et vous allez la traduire en français.
D'accord, si j'y arrive.
Première, faire une sortie d'hôtel.
Alors là, je la connais même pas, ça là, vous voyez.
Ça veut dire attaquer d'emblée, dès la sortie de l'hôtel.
D'accord.
Avoir un braquet d'asthmatique.
Ça, c'est pédaler avec un braquet très faible et mouliné, comme si on voulait se ventiler les jambes.
Mettre un siffleur.
Ça, c'est mettre un boyau de soie qui siffle quand on démarre.
Pédaler avec les oreilles.
C'est pédaler de façon malpropre, sans élégance physique.
Saler la soupe.
C'est se doper.
Faire de l'huile.
C'est couler une bielle.
C'est être à bout de force.
Ouais.
Fumer la pipe.
C'est rouler tranquille derrière les autres. Maintenant, on dit « je fais mon sudoku sur le guidon
». Avoir de la laine sous les ongles.
C'est le sprinter malencontreux qui accroche. À l'époque, c'était des maillots en laine. Donc, pour se faire une rétropoussette au sprint, il accrochait le maillot de l'autre et il le dépassait par tricherie.
Bon, je crois que vous avez 20 sur 20.
Presque.
Une dernière citation d'Artaud, pour laquelle j'aimerais avoir un commentaire de votre part. Il écrit « Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l'enfer. »
Ah oui, oui.
Est-ce que ça correspond à votre pulsion d'écrivain ?
Ah oui, oui, parce que l'enfer d'une langue exsangue qu'on nous impose est une douleur. J'ai du mal à... Je suis très clair, hein, je crois que je suis incapable de lire 99% de la littérature actuelle, parce que c'est une souffrance pour moi. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer, j'ai envie de voir des jongleries, j'ai envie de voir de la virtuosité, j'ai envie d'entendre du son. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rythmique. Donc, il y a cet enfer de la perte de la langue, qui pour moi est grave parce qu'on est en démocratie, mais la perte de la langue, comme je l'ai dit, c'est l'imposition d'une langue standard et la réfutation de ce qui a fait aussi la grandeur de la France, son petit peuple et son aristocratie artistique. Et que la démocratie veuille se contenter du milieu le plus bas et de la moyenne la plus faible, du dénominateur le plus bas, c'est la catastrophe. Je ne suis pas de droite, c'est la catastrophe mathématique opérée par les gouvernements et les ministres de l'école. Quoi.
Mais pourquoi vous précisez « je ne suis pas de droite » ?
Parce que comme je suis, entre guillemets, un styliste ou un maniaque de la langue française, on va penser que je suis un surgeon du Figaro ou un pote à Finkielkraut ou à Richard Millet, toute personne que j'admire, et j'aime bien lire le Figaro. Et d'ailleurs, j'ai toujours des super papiers dans le Figaro parce qu'ils voient que je m'intéresse à la langue haute. Mais dans les papiers du Figaro, ils évacuent toujours le fait que je viens des cités et que j'ai roulé en gitane testis. C'est jamais marqué, ça, vous voyez.
Quel est votre pronostic sur la suite de l'histoire, là? Vous dites que la langue se standardise. Dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de sursaut ?
Il peut y avoir un sursaut. Pour moi, s'il y a un grand écrivain qui naît des cités, qui ne passe pas par le vecteur du rap, et qui ait en même temps eu la chance de pouvoir avoir un goût de la lecture. Mais ça, c'est une abstraction, parce que ce n'est peut-être pas par le livre que ça va passer, je ne sais pas.
Revenons à votre livre, Philippe Bordas, Les Parisiens. Alors, je crois que vous avez habité toujours au même endroit, à Paris, en face du cimetière Montparnasse.
Oui, voilà.
Peuplé de grands écrivains morts.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé autour de vous dans les dernières décennies qui vous a le plus marqué ?
En fait, je vivais sur la cime du cimetière, sur le point le plus haut, dans un immeuble de presque 8 étages, où vivaient, quand je suis arrivé, dans des petites surfaces, plein de gens très différents, mais des gens très très modestes. Des artistes, des ex-concierges, etc. Tout était mélangé. Et en 33 ans, j'ai vu partir tous les gens pauvres. J'ai vu un marchand de biens racheter l'immeuble en entier et le revendre par lot, en s'empressant, dès qu'un écrivain décédait, de jeter ses porte-plumes sur le trottoir. C'est ce que j'ai vu, un ancien prix Renaudot qui vivait au-dessus de chez moi, tout seul. Tous ces effets d'écriture ont été jetés sur le trottoir au nom de l'inflation immobilière et de la plus-value au mètre carré. Et peu à peu, je suis devenu le plus ancien de l'immeuble. Et je ne suis plus entouré que de gens qui sont des gens du secteur tertiaire, qui ont des moyens bien supérieurs aux gens d'avant. Il n'y a plus de loyer 48. Mais ils ont des grands moyens financiers et une langue assez misérable, qui est souvent la langue un peu utilitaire des écoles de commerce, la langue du British business qu'on impose un peu partout. Et je n'entends rien qui frappe l'oreille nulle part. Et quand je sors dehors, on en est tous témoins. La langue de Paris qui nous faisait rire au café a à peu près disparu. On n'a plus, il y a plus de variations lexicales, de variations d'accent même. À part évidemment, dès que moi j'adore aller au-dessus de Barbès, rue Mira, dans le quartier africain, parce que là on retrouve de la vraie vie et une sorte de délire exponentiel de la langue. Mais le Paris intramuros s'est construit de façon immobilière par l'évacuation des pauvres et de la langue. Et je pense aussi que l'imposition et l'usage d'une langue faible, normée, correspond à un mouvement politique d'éradication de certaines classes sociales. Et je pense qu'il y a une organicité. Vous me demandez pourquoi votre langue est musculaire, pourquoi elle est ceci, cela. Parce que les prolétaires, les gens de rien, n'ont que leur corps pour s'exprimer, leur corps pour se faire valoir. Donc la valeur passe par le muscle, passe par la voix. Donc la vocalité a été un moyen d'expression pour les petites classes qui ont disparu. Et c'est une langue, maintenant, Paris est une ville triste, non musicale.
Voilà. Mais quelle différence vous faites entre Paris et la France ? Est-ce que ce qui vaut pour Paris que vous décrivez là vaut aussi de façon générale dans tous les pays sont soumis à cette langue standardisée qui vient de la
communication ? La gentrification est mondialisée.
Et pourquoi vous parlez de Paris alors, seulement de Paris ?
Parce que c'est mon biotope et que je pense qu'on ne peut pas écrire sur ce qu'on ne connaît pas très bien. Et puis je ne vais pas généraliser, je ne vais pas écrire un livre de sociologie urbaine, ce n'est pas du tout ça mon propos. Et puis c'est... Je voulais rendre hommage à des personnages exceptionnels. Et ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est que certains sont morts, parce qu'il y a un des grands cascadeurs qui avait tourné avec Belmondo qui est décédé l'an dernier. J'ai écrit le discours pour ses obsèques, qui a été lu par les anciens cascadeurs, qui ont très bien compris ce que je disais. Et quand le livre est sorti, là, il y a un des grands survivants, celui qui avait le 357 Magnum, qui est toujours rue Daguerre, qui tient la rue, parce que c'est sa rue. Si quelqu'un moufte ou fait un truc de travers, il intervient, c'est un truc très drôle. C'est une sorte de Clint Eastwood de 82 piges. Et lui, il a lu le bouquin, et il me dit, alors il y a son personnage à lui, j'espérais qu'il allait pas trop mal le prendre, que j'allais pas me prendre une dégelée si ça lui plaisait pas. Et il me dit, ah ouais, non, ton truc, c'est super. Ah ouais, non, il y a des trucs bizarres mais qui sont chiadés, mais vraiment, je me marre de trop. Alors lui, un ancien qui n'a fait aucune étude, aucune culture réelle, il comprend tout, il a été heureux comme un enfant. Je vais dans une nouvelle salle où je fais un peu de musculation, où vivent des gens que je connais qui ont eux aussi acheté le livre, qui connaissent un peu mon histoire. C'était hier, je reprends la muscu hier, et là c'est le four total, c'est que des gens très normaux, des institutrices, un grand scientifique, plutôt mathématicien, mais je pensais qu'il avait plus de joie en lui, et les mecs me traitent comme si j'avais vomi dans la bassine commune. Il y avait une sorte de gêne et ils m'ont laissé entendre que mon livre était invalide pour eux, parce qu'évidemment, mon livre est une attaque contre la langue standard qu'ils parlent. Donc, maintenant, aujourd'hui, je ne suis apprécié que du populo qui a disparu et des aristos qui ont été éradiqués. Donc, c'est pour ça que je fais très peu de ventes.
Attendez, ça va changer. Mais comment réagissent les personnages qui sont vraiment dans le livre quand ils ont lu leur portrait et surtout quand ils ont lu le portrait que vous faites de leurs amis des autres?
Bah, ce qui est drôle, c'est que chacun est très content que je sois un peu vache avec lui parce que j'exagère, mais il y a beaucoup d'amour. Et alors, ils me disent à l'oreille, bon, ouais, moi, c'est vrai que je m'en prends plein la gueule, mais franchement, je me suis bien marré. Il me dit, par contre, je te le dis tranquille, tu dis rien à machin, parce que là, ce que tu lui as mis sur la tronche, ça va lui faire du mal, tu vois. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai essayé de faire le même portrait pour chacun, mais entre eux, ils pensent que eux, ils sont à la noce, et que les autres, ils se sont pris une dégelée. C'est ça qui est très drôle.
Et comment vous l'expliquez?
Je sais pas, parce que peut-être, comme il y a un ton amoureux, ils pensent que les critiques envers eux sont jouissives et les mettent quand même en valeur. Et de toute façon, ça reflète l'espèce de guerre verbale que j'ai découvert le premier jour derrière les hublots, de mecs qui se gueulaient tout le temps dessus parce que c'était des pas commodes et ils n'arrêtaient pas de se disqualifier les uns les autres en se critiquant leur corps, leur tare physique ou leur force physique. Donc je pense que c'est ancré en eux, la guerre verbale que moi j'adore, mais eux c'était pour de vrai quoi.
Il y en a un, je ne sais plus lequel, qui dans le livre dit qu'il ne faut pas confondre racaille et canaille.
Ah oui,
et c'est quoi la différence?
Ah ben bah, bah c'est très simple, c'est-à-dire que c'est celui justement dont je viens de parler qui a bien aimé le bouquin et qui tient la rue Daguerre. Lui, il dit très fièrement qu'il était canaille, il a fait tout ce qu'il fallait pour. Mais par contre, c'est lui qui allait le soir reprendre place parmi les blacks et les rebeux de la cité alors qu'il n'avait pas droit. Et là, évidemment, c'est le terme générique méchant d'aujourd'hui. Tous les mecs des cités, c'est des racailles. Donc lui, je ne vais pas dire que c'est pas un mec qui va s'intégrer facilement dans une communauté wolof, hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein.
Est-ce qu'on écrit comme on pédale? Je pose la question, parce que vous faites les deux, vous écrivez, vous pédalez, vous faites 15 000 km par an, c'est ça, à vélo?
À peu près, sauf cette année, mais à peu près, ouais.
Et est-ce que
oui, y a...
l'écriture inspire la façon de pédaler, ou l'inverse?
Déjà, il y a la régularité, et le souffle, et les variations. Après, je sais pas, il y en a qui tirent un trop gros braquet pour eux, c'est pour ça que moi je mets pas trop d'idées dans mes bouquins parce que j'ai pas le niveau. Il y en a qui tirent petit aujourd'hui, qui moulinent à vide. Bon, donc c'est les amis que j'ai pas envie de lire. Moi, j'aime quand on fait des variations et surtout avec des démarrages. Des variations le démarrage qui font plaisir.
Philippe Bordas, je vous ai pas entendu citer Paul Valéry. Vous le lisez, il vous inspire?
Ah, Paul Valéry a été le premier grand choc en classe préparatoire. J'avais été très impressionné par Monsieur Test, parce que c'était le personnage héroïque un peu eastwoodien de la réfutation. Mais après, j'ai beaucoup changé. Je me suis modifié moi-même pour n'avoir plus que le goût de l'affirmation.
Parce que lui dit, penser trop exactement mène à mal écrire.
Ah oui,
c'est-à-dire que la langue que vous proposée est une langue qui ne doit pas être trop précise, sans quoi elle perd en saveur.
C'est-à-dire que j'essaye de laisser une flottaison dans la syntaxe pour qu'on ne puisse pas s'accrocher à des schémas préconçus, qui a toujours un effet de surprise. Et la pensée est désorientée, mais à partir du moment où elle est désorientée, elle ne peut pas revenir sur des traces anciennes. Et ouais, chacun sa façon. C'est vrai que moi, c'est lié à la variation et au plaisir instantané. Il y a des gens qui, il n'y a pas d'histoire souvent dans mes livres, et les gens qui accrochent, ils sont pris par la musique.
Est-ce que je peux vous demander, Philippe Bordas, de lire un petit morceau de votre livre, un portrait que vous faites du Cheyenne?
Le Cheyenne avait perdu toute verve. Le rictus d'ironie cousu à sa lèvre s'était distendu. Manant blâmé, il avait reflué dans ses profondeurs, humilié par plus acteurs et hautains que lui. Sitôt qu'il perdait la main et recevait à son tour poisons et acides, le solitaire d'Arbonne, baissé en fourberie, déshabillé de son jeu bouffon, restitué à sa douleur secrète, sa flétrissure d'homme sans femme et sans société. La perte de la santé et le défaut d'argent l'avaient enrobé de fatalité, de rage contre les grossiums, de considérations stoïciennes sur la fuite du temps et la ruine de tout.
Philippe Bordas, j'ai une dernière question à propos de ChatGPT. Est-ce que vous pensez que ChatGPT va imposer une forme de norme, à la fois dans notre façon d'écrire et dans notre façon de parler?
Alors moi, je renverserai totalement la proposition. Je pense que ChatGPT a intégré une norme préexistante qui a été inventée non pas par les écrivains, mais par les auteurs. Il y a une grande différence entre les écrivains qui sont des inventeurs et les auteurs qui sont des raconteurs d'histoires. ChatGPT a intégré toute une littérature normée, appauvrie, comme je l'ai dit, exsangue, débarrassée de sa base et de son sommet. Et on n'arrête pas de dire, on va imaginer le drame que peut-être que ChatGPT va pouvoir produire des romans à la place des écrivains et les dérober à leur inspiration. Mais c'est pas du tout ça. Les mauvais écrivains ont déjà, les auteurs, ça fait des années qu'ils nous produisent depuis que le journalisme envahit la littérature. C'est une langue de ChatGPT qui est publiée. Donc, quand ChatGPT dit « j'ai intégré tout le corpus existant des littératures et voici ce que ça donne », ChatGPT a été inventé avant ChatGPT. C'est-à-dire que la norme de ChatGPT est le fruit d'une auto-régulation normative que l'écrivain, par paresse, par manque de talent, par désir d'argent, le gars a besoin de s'acheter une BM, et ben il écrit en ChatGPT.
C'est pas une conclusion très très optimiste, hein, mais c'est la vôtre. Je recommande vivement la lecture de votre livre, Philippe Bordas, qui s'intitule « Les Parisiens ». Les Parisiens et non pas les Parisiens, qui vient de sortir aux éditions Gallimard. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Sofiane Aktib et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.